Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Elles voyagèrent ainsi pendant de nombreux lieues. Mais la journée était chaude, le soleil brûlait, si bien qu'elle eut bientôt de nouveau soif. Comme elle passait près d'un fleuve, elle dit de nouveau à sa suivante « Descends de cheval et va me chercher à boire dans mon gobelet d'or », car elle avait oublié depuis longtemps les méchantes paroles de celle-ci. Cependant, sa suivante lui dit d'un air encore plus hautain « Si vous avez soif, buvez vous-même, je ne veux pas être votre bonne ». Comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau qui coulait et se mit à pleurer en disant « Oh mon Dieu !» Et les gouttes de sang lui répondirent de nouveau « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. » Tandis qu'elle buvait ainsi et qu'elle s'était penchée très loin en avant, le petit chiffon où se trouvaient les trois gouttes de sang s'échappa de son corsage et fut emporté par le courant. Elle ne s'en aperçut même pas tant elle était inquiète, mais sa suivante avait tout vu et elle se réjouissait du pouvoir qu'elle avait désormais sur la fille de roi, car en perdant les gouttes de sang, celle-ci était devenue faible et impuissante. Quand elle voulut remonter sur son cheval qui s'appelait Falada, la suivante dit « C'est à moi de monter sur Falada, toi tu monteras sur mon canasson ». Et elle n'avait d'autre choix que de subir cela. La suivante lui ordonna ensuite sèchement d'ôter ses habits royaux et de mettre à la place ses méchants habits, et enfin, elle dut lui jurer en prenant le ciel à témoin de ne rien dire à personne de tout cela à la cour du roi. Et si la fille de roi ne lui avait pas fait ce serment, elle aurait été tuée sur le champ. Mais Falada avait vu tout cela et l'avait bien retenue. La suivante monta donc sur Falada et la vraie fiancée sur le mauvais cheval et elles poursuivirent leur chemin ainsi jusqu'à ce qu'elles entrent enfin dans le château royal. À leur arrivée, la joie fut grande et le fils du roi accourut à leur rencontre et aida la suivante à descendre de cheval, croyant que c'était sa promise. On lui fit monter l'escalier, mais la vraie fille de roi dut rester en bas. Le vieux roi regarda alors par la fenêtre et la vit debout au milieu de la cour et il remarqua combien elle était fine, délicate et extrêmement belle. Il se rendit aussitôt dans la chambre royale et demanda à la fiancée qui était la personne qui l'accompagnait qui se tenait là, dans la cour. « Je l'ai prise avec moi en chemin pour qu'elle me tienne compagnie et donner à cette bonne quelque travail pour qu'elle ne reste pas sans rien faire. » Mais le vieux roi n'avait pas de travail à lui donner et ne trouva rien d'autre à dire que « J'ai un petit garçon qui garde les oies et qu'elle peut aider. » Le petit garçon s'appelait Conrad et la vraie fiancée dut donc l'aider à garder les oies. Au pays des contes merveilleux, rois, reines et princesses vivent des aventures qui ne sont jamais de tout repos. Pour preuve, le conte intitulé « La gardeuse d'oies » écrite par les frères Grimm. Eh bien, c'est cette nouvelle série que nous vous proposons aujourd'hui avec le docteur Dominique Desmichel pour ce deuxième épisode. Vous pouvez écouter bien sûr le début sur notre site internet www.radiograndciel.fr et surtout entendre la totalité du conte en cliquant sur la rubrique règlement de conte et en vous laissant guider. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors nous abordons pour une deuxième émission cette gardeuse d'oie. J'aimerais avant qu'on démarre eh bien que on fasse un peu le point là, sur les protagonistes de cette histoire.
Oui, je crois que c'est important de revenir un petit peu sur les personnages. Donc on a vu au début qu'il y avait une vieille reine, donc qu'elle était vieille. Deuxièmement, qu'elle était veuve. Donc troisièmement, qu'il n'y avait pas de père. Quatrièmement, qu'il y avait une fille. Que la fille, elle partait pour se marier. Et qu'on avait le sentiment que ce qui résumait en tout cas les affects et les sentiments du début du conte, c'est l'amour de la mère pour sa fille. Et on pourrait se dire, quand on va chercher un mari, c'est peut-être pas très très facile pour une fille de ne pas avoir de père. En tout cas, elle a l'air d'être portée par l'amour de sa mère. Et peut-être que cet amour, c'est pas vraiment très très simple. Première chose. C'est pour ça qu'on dit la fille du roi, ou plus tard on dit la fiancée du roi, dans le sens où elle est promise à un autre fils de roi. Mais j'aurais envie de dire qu'elle est plutôt fille de roi, mais pas fille d'un roi. Donc elle est dans sa fonction. Et comme il n'y a qu'une reine, j'ai envie dorénavant de proposer qu'on l'appelle la fille de reine. Hein. C'est-à-dire elle serait définie par le fait qu'elle est la fille d'une reine et pas la fille d'un roi. Hein. Voilà, puisqu'il n'y a pas de roi. C'est important parce qu'il y a une fille de reine et il y a un fils de roi. Il lui faut trouver un mari, mais je le redis bien, elle n'a pas cette fille de reine, donc elle n'a pas connu de père incarné, de père qui l'ait aimé. Et elle est donc plutôt la fille d'un absent et que c'est probablement pas très très simple pour elle de s'être construit. Et puis on a vu aussi que sa féminité, elle a l'air d'être peut-être un petit peu superficielle, voire superfétatoire, puisque d'une part, sa féminité a l'air d'être manifestée ici par des beaux bijoux, des beaux habits, etc. Bon, en gros, c'est un petit peu du bling-bling, hein, c'est de l'extérieur, c'est pas tout à fait intérieur. On a vu que sur le plan de sa polarité, mettons, plus masculine, c'est-à-dire l'affirmation de son identité, c'est pas très très simple, puisque avec la suivante, en gros, elle se laisse faire et elle dit rien du tout. Voilà, donc une fille de reine, comme je l'appelle maintenant, qui ne relève pas d'une singularité ou une personnalité très, très, très forte. Et puis...
Alors, est-ce que ces caractéristiques de sa personnalité n'étaient pas non plus une qualité à l'époque où a été écrit le conte, où justement on demandait souvent aux princesses et aux filles d'être humbles et plutôt soumises que l'inverse?
Oui, probablement. Mais j'aurais tendance à penser que ça, c'était vrai dans la dimension extravertie ou publique et peut-être dans une certaine société. Vous voyez,
ah oui, hein, évidemment.
En sachant que quand même les maîtresses, les courtisanes, etc., elles avaient aussi un rôle très très important. Et puis que dans la vie courante du monde agricole, hein, je pense que les femmes, elles bossaient autant que les hommes. Hein, elles avaient les enfants à s'occuper aussi, enfin, dont il fallait s'occuper, etc. Donc, votre remarque, je pense qu'elle a une certaine pertinence, mais dans un registre particulier. Et je crois que le fait que chaque être humain adulte, homme ou femme, ait une partie masculine, plutôt du côté de l'affirmation de soi, du côté du discours, de la parole, de la volonté, de l'énergie, d'un temps linéaire, d'une perspective d'un côté. Et puis de l'autre, une polarité féminine, c'est-à-dire du côté du lien, des sentiments, des émotions, d'un temps circulaire, d'une priorité donnée au lien. Vous voyez, ça existe chez les hommes et chez les femmes, à mon avis, depuis très très longtemps.
Hein. Oui. Alors d'ailleurs, son double, peut-être son ombre, en tout cas sa suivante, c'est tout à fait l'opposé, évidemment, de notre héroïne.
Voilà, alors je crois que c'est vraiment important de repérer ça, c'est-à-dire cette héroïne, finalement, elle est tout à fait le look d'une anti-héros, quoi, hein, voilà. Tandis que l'autre, la suivante, dont on a envie de se dire qu'elle est plutôt un peu la méchante, puisqu'elle refuse le gobelet d'or à sa maîtresse, eh bien, c'est plus compliqué que ça. Elle a une fonction, remettre la fille de reine à son fiancé, autant dire presque un rôle porteur, presque un rôle paternel, mais en tout cas, elle a un caractère ferme, elle a un caractère énergique, elle a de la volonté, elle décide, et on va voir dans la suite du récit qu'elle se laisse pas faire du tout. Elle ne veut pas être la bonne de la fille de reine, et on va voir plus tard qu'elle va être à l'origine de nombreux éléments du récit.
Eh bien, docteur Desmichel, je vous propose de reprendre le cours de notre récit. Elles voyagèrent ainsi pendant de nombreux lieues, mais la journée était chaude, le soleil brûlait, si bien qu'elle eut bientôt de nouveau soif. Comme elle passait près d'un fleuve, elle dit à nouveau à sa suivante « Descends de cheval et va me chercher à boire dans mon gobelet d'or », car elle avait oublié depuis longtemps les méchantes paroles de celle-ci. Peut-être pouvons-nous nous arrêter là dans un premier temps ?
Voilà, donc, comme souvent dans les contes, vous savez, il y a un premier épisode, puis il y en a un deuxième, puis de temps en temps, il y en a un troisième, qui répète en gros à peu près la même scène, et c'est pour dire combien cet événement-là est important sur le plan symbolique. Donc là, on est en chemin, c'est-à-dire, il y a lieu, à mon avis, de l'entendre comme une sorte de cheminement intérieur de cette fille de reine pour arriver à trouver son prince. Elle a soif de quelque chose, on ne sait pas trop de quoi. Toujours est-il que ce dont elle a hérité normalement de sa famille, à savoir le gobelet d'or, c'est sa suivante qui l'a, donc peut-être une autre partie d'elle-même qui le possède, mais qu'elle, elle ne l'a pas. Et elle ne peut pas aller avec ce qui lui a été donné dans le cadre de son héritage. Elle ne peut pas aller boire, il faut qu'elle se débrouille toute seule. On peut essayer d'entendre ça, vous voyez, dans le fait de devoir aller boire avec ses mains ou d'aspirer l'eau de la rivière puis ici du fleuve, comme un temps un petit peu de régression en quelque sorte. Hein. Voilà. En tout cas, elle, non seulement elle descend de cheval, mais elle descend aussi de son statut de fille de roi, ou plutôt de fille de reine ici, pour revenir comme les manants, quoi, hein, c'est-à-dire de se débrouiller par elle-même. Il y a en tout cas ici une sorte de changement de classe, mais aussi un processus d'autonomie.
Alors que peut-on dire sur cette remarque assez étonnante, sur sa mémoire ? Et elle a déjà oublié ce qui s'était passé une heure avant ?
Oui, je pense que cet élément est tout à fait important, c'est-à-dire que manifestement, elle n'est pas à même d'avoir saisi à la première fois quel était l'enjeu. L'enjeu, c'était probablement qu'il s'agissait pour elle de devenir plus autonome, de grandir, et ça, elle ne l'a pas intégré, puisqu'elle redemande à sa suivante d'aller faire quelque chose. Elle aurait pu se dire, bon, maintenant, je commence à grandir, je suis un petit peu une plus grande fille, et ben, je vais me débrouiller toute seule, et puis j'ai réussi peut-être un peu à boire la première fois, toute seule, donc maintenant je continue tout seul, comme au fond font tous les enfants quand ils grandissent.
On a vraiment le sentiment d'avoir affaire à une enfant presque,
oui.
Très très jeune, qui un peu timide, un peu renfermée, qui du coup est à la merci des grandes personnes que pourrait représenter la suivante.
Oui, 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 tout à fait. Mais je le mettrai pas en termes de grandes personnes, enfin, je suis bien d'accord avec ce que vous dites, je le mettrai dans deux figures à l'intérieur d'une fille, au fond, hein, une figure un peu passive et peut-être un petit peu coincé dans l'amour maternel, et une autre qui est en train d'advenir, vous voyez, qui surgit et qui n'a pas du tout envie d'être la bonne et qui a envie d'exister et qui dit à la première « Débrouille-toi, moi j'existe, à toi d'exister pour toi-même. »
Eh bien justement, c'est ce qu'elle va dire. Cependant, sa suivante lui dit d'un air encore plus hautain « Si vous avez soif, buvez-vous-même, je ne veux pas être votre bonne. » Comme elle avait grand soif, la fille de roi descendit de cheval, se pencha au-dessus de l'eau qui coulait et se mit à pleurer en disant « Oh mon Dieu !» Et les gouttes de sang lui répondirent de nouveau « Si ta mère savait cela, son cœur éclaterait de chagrin. »
Donc là, vous voyez, on retrouve la même chose, c'est-à-dire
même schéma.
Même schéma, oui. Donc il me semble que la juxtaposition entre l'événement « aller boire toute seule à la rivière » et la parole de la mère dit qu'il y a un lien de causalité, vous voyez ? Donc, il me semble que dans le fait que sa mère est très triste ou serait très triste si elle la voyait dans cette condition, ça dit bien la condition de fille de la mère. Hein. C'est pour ça que moi, je l'appelle la fille de reine. Hein. Ce n'est pas une fille de roi, c'est une fille de reine. Et pour l'instant, elle n'est pas autonome. Elle est encore dans le giron maternel. Et le giron maternel serait désolé de la voir comme ça. Mais normalement, une mère qui fait bien son job ne devrait pas être désespérée, il me semble, de voir sa fille dans cette situation, mais de lui dire « Eh ben écoute, ma fille, tu vas te débrouiller, tu bois avec tes mains, et puis c'est tout, ou va te bagarrer un petit peu avec la suivante pour exister. Hein ?»
Tandis qu'elle buvait ainsi et qu'elle s'était penchée très loin en avant, le petit chiffon, où se trouvaient les 3 gouttes de sang, s'échappa de son corsage et fut emporté par le courant. Alors, je m'arrête ici, docteur Dominique Desmichel, parce qu'on sent bien aussi là un mini-drame qui vient de se produire.
On a vu juste avant que probablement les paroles de ces 3 gouttes de sang, le 3 pouvant représenter le père, la mère et puis l'enfant, ça peut représenter aussi beaucoup d'autres choses, mais que ces 3 gouttes de sang qui se perdent, qui parlent, eh bien, il faut qu'elles disparaissent. Hein. C'est-à-dire, il représentait, ce mouchoir représentait avec les 3 gouttes de sang, quelque chose de l'ordre d'une protection de la fille de Rennes, hein, puisqu'elle n'est que la fille de sa mère, au fond, et puis là, ça va disparaître. Et on va voir, juste après, qu'à ce moment-là, le récit, d'ailleurs, change.
Elle ne s'en aperçut même pas tant elle était inquiète.
Là aussi, encore, pas beaucoup de prise de conscience. Hein. Elle fait un petit peu gourde hein, pour l'instant. Hein.
Mais sa suivante avait tout vu et elle se réjouissait du pouvoir qu'elle avait désormais sur la fille de roi. Car en perdant les gouttes de sang, celle-ci était devenue faible et impuissante.
Alors, celle-ci était devenue faible et impuissante. Elle était déjà pas très forte, elle était déjà pas très puissante.
Mais si on prend le chiffon comme un objet magique qui l'a protégée plus ou moins, on peut comprendre sa réaction.
Voilà. En tout cas, on peut penser que la suivante ne s'autorisait pas à certaines choses à partir du moment où il y avait la présence symbolisée par le mouchoir et le sang dans le corsage de sa maîtresse. Hein. Voilà, elle s'autorisait pas. Là, maintenant, il n'y a plus la protection symbolique de la mère qui est là. Et donc, ça va bouger un peu, hein, et ça va remuer même.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel et je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel afin d'explorer le conte La Gardeuse d'Oie des frères Grimm. Eh bien, nous avons laissé juste avant cette petite plage musicale notre héroïne impuissante et faible qui est totalement sous l'emprise de sa suivante et je vous propose de poursuivre le texte. Quand elle voulut remonter sur son cheval qui s'appelait Falada, la suivante dit: c'est à moi de monter sur Falada et toi tu monteras sur mon canasson. Et elle n'avait d'autre choix que de subir cela. La suivante lui ordonna ensuite sèchement d'ôter ses habits royaux et de mettre à la place ses méchants habits. Et enfin, elle dut lui jurer en prenant le ciel à témoin de ne rien dire à personne de tout cela à la cour du roi.
Alors, on a vu dès le début hein, du voyage qu'il y avait un conflit entre la fille de Rennes et la suivante. Et alors là, ça rigole plus. Hein. Juste avant, nous avions...
Les masques sont tombés. Hein.
Les masques sont tombés. La fille de Rennes n'est plus protégée par le mouchoir taché avec les 3 gouttes de sang. C'est-à-dire, elle n'a plus la protection symbolique de sa mère. Et la suivante, elle en profite. J'ai bien envie de dire aux auditeurs que n'allez pas diaboliser la suivante. Elle a un rôle particulier. On va voir combien elle est importante. En tout cas, c'est sûr qu'elle reprend à ce moment-là les rênes de l'histoire, les rênes du récit et les rênes de Falada, hein, puisqu'elle remonte sur le cheval. On échange les habits. Et au fond, dans une certaine mesure, on a l'impression qu'il y a une sorte d'ordre symbolique qui est en quelque sorte restauré, puisque au fond, la fille de reine, elle se comportait comme une espèce de suivante. La suivante, elle se comportait de manière plus ferme et avec une forme d'autorité. Elle était en possession des gobelets d'or. Donc elle dit, c'est moi la reine, enfin c'est moi la future princesse. Et donc elle monte sur le cheval. Moi, je trouve que c'est assez logique dans la trame du récit. Et puis, la dernière chose, c'est qu'elle a aussi une sorte de pouvoir sur la fille de reine, puisqu'elle lui dit « tu ne dois absolument pas dire quoi que ce soit de tout ce qui s'est passé lorsqu'on arrivera au terme de notre voyage ».
D'ailleurs, le texte dit « et si la fille de roi ne lui avait pas fait ce serment, elle aurait été tuée sur le champ ».
Et là aussi, j'ai envie d'essayer de le penser sur le plan symbolique, c'est-à-dire il y a ces deux parties d'une fille, au fond, hein, je reprends un tout petit peu la symbolique déjà, au fond c'est une fille qui est avec juste sa mère, il n'y a pas de père, et il faut qu'elle se trouve son homme. Et à l'intérieur d'elle-même, il y a deux parties, il y a son moi qui est plutôt faible, et puis il y a une autre partie, je vais reprendre le mot parce que je vais le redéployer tout à l'heure, mais vous l'avez dit déjà et ça me paraît très pertinent, c'est un personnage d'ombre. Hein, dans son ombre, il y a ce personnage de la suivante qui a de la personnalité, qui émerge et qui prend toute la place. Voilà, et qui dit au moi, tu te tais, maintenant c'est moi qui décide.
Mais Falada avait vu tout cela et l'avait bien retenu. La suivante monta donc sur Falada et la vraie fiancée monta sur le mauvais cheval. Et elles poursuivirent leur chemin ainsi jusqu'à ce qu'elles entrent enfin dans le château royal. Je rappelle que le cheval s'est parlé, hein, donc ouais. On a affaire à un cheval lui-même magique.
Voilà, alors on pourrait essayer de redire peut-être un tout petit mot sur ce cheval, mais on va continuer un petit peu le récit, puis après je reviendrai un petit peu sur les différents animaux, parce que pour comprendre un peu ce qu'il représente, il faut qu'on ait déjà entendu quand même toute l'histoire, et le destin de ce Falada est quand même pas tout à fait anodin.
À leur arrivée, la joie fut grande, et le fils du roi accourut à leur rencontre, et aida la suivante à descendre de cheval, croyant que c'était sa promise. On lui fit monter l'escalier, mais la vraie fille de roi dut rester en bas.
Donc là, vous voyez, il me semble que tout est en place. C'est-à-dire, la suivante, elle a pris la place, elle a de la personnalité, elle a revêti les habits royaux, elle sait ce qu'elle veut, et au fond, elle est reconnue par le prince dans sa fonction. Alors le prince, il n'a pas l'air d'être très très regardant, on ne sait pas très bien s'il a des sentiments, il est un petit peu secondaire dans l'histoire, mais voilà. Tout est en place et au fond, on pourrait se dire presque, l'histoire pourrait s'arrêter là, quoi. Évidemment, ça ne ferait pas un récit tout à fait génial, mais ça ferait un récit où, dans le conflit entre un moi un petit peu faible et une ombre puissante, c'est l'ombre qui gagne. Hein, voilà.
C'est une espèce de mensonge aussi qui gagne, pour le coup, là.
Oui, c'est un mensonge, mais à entendre comme une sorte de mauvais songe, vous voyez. Hein, parce que si le conte n'est pas là pour faire la morale et dire « Oh là là, c'est pas bien ce qu'a fait la suivante », il est là pour dire qu'il y a une psychologie des personnages et que le moi de la fille de reine, il tient pas la route. Et que la partie de son ombre, par contre, est puissante, et tient bien la route. Et donc, je trouve que c'est assez logique qu'il se passe ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que l'ombre prenne la place et aille épouser le prince. C'est dans l'ordre des choses. Évidemment, c'est une usurpation d'identité, mais si on le pense en termes intérieurs, ça veut dire qu'il y a une partie ombrageuse de cette jeune femme qui a pris le pouvoir. Et dans la vie, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, alors je fais un tout petit aparté, hein, pour donner un exemple, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une ombre. À l'intérieur de nous-mêmes, l'ombre contient en gros deux types de personnages. Le premier personnage, c'est tous les aspects de nous-mêmes que l'on n'aime pas. Voilà. Mais l'ombre, ça n'est pas que les personnages de nous-mêmes que nous n'aimons pas, c'est aussi tous les personnages qu'on n'a pas pu déployer dans notre vie. Vous auriez peut-être aimé être, je sais pas, footballeur, chef d'orchestre, écrivain, musicien, poète, boulanger, voilà. Et puis, vous êtes ce que vous êtes, avec votre métier de journaliste, par exemple, et puis voilà. Et puis, vous avez abandonné d'autres choses. Et puis, peut-être qu'un jour, dans une rencontre, parce que, je sais pas, dans l'été 2017, vous allez rencontrer un personnage, vous allez discuter, et puis, vous allez vous dire, mais en fait, ce que j'ai le plus envie de vivre à l'intérieur de moi, c'est de faire de la musique. Et vous allez vous rappeler que vous avez fait du piano, de la guitare ou de la flûte, que vous avez participé à un groupe de hard rock quand vous aviez 17 ans, et puis vous allez vous y mettre. Voilà un personnage d'ombre vivant à l'intérieur de vous-même, que vous avez refoulé comme ça, et à partir du mois de septembre, vous allez revenir à Radio Grand Ciel en disant « Je suis actuellement à temps plein, je voudrais prendre un 80% parce que j'ai envie de... » Trois petits points, c'est-à-dire vous avez envie que cette partie musicien ou boulanger ou chef d'orchestre se déploie en vous. Hein. Donc j'ai vraiment envie ici qu'on essaye d'imaginer le personnage de la suivante, non pas comme la grosse vilaine qui serait une horrible sorcière, mais comme quelqu'un qui a une personnalité, qui sait ce qu'elle veut et qui prend la place parce que le moi de la fille de reine, elle ne fait pas le job.
Je poursuis. Le vieux roi regarda alors par la fenêtre et la vit debout au milieu de la cour. Et il remarqua combien elle était fine, délicate et extrêmement belle. Il se rendit aussitôt dans la chambre royale et demanda à la fiancée qui était la personne qui l'accompagnait, qui se tenait là dans la cour. « Je l'ai prise avec moi en chemin pour qu'elle me tienne compagnie. Donnez à cette bonne quelque travail pour qu'elle ne reste pas sans rien faire. » Mais le vieux roi n'avait pas de travail à lui donner et ne trouva rien d'autre à dire que « j'ai un petit garçon qui garde les oies et qu'elle peut aider. »
Alors, là, c'est pas rien. Alors, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, il y a un autre personnage. Ce personnage, c'est le vieux roi. On se rappelle dans l'histoire qu'il y avait une vieille reine au début. Par contre, la vieille reine, elle n'avait pas de conjoint. Hein. Elle était, elle, bien installée sur sa parèdre, mais il n'y avait pas de roi sur sa cathèdre, hein, sur son trône royal. Hein. Il y avait un trône pour la reine, il n'y avait pas de trône pour le roi. Et là, on voit un vieux roi, donc on voit bien l'autre figure hein, qui émerge, et on remarque que le vieux roi, il accueille probablement la suivante en la prenant pour la promise pour son fils.
Bien sûr, oui.
Mais qu'en même temps, il est très attentif, puisqu'il va remarquer aussi la suivante. Et qu'il va pas voir la fille de reine. Il va pas voir la fille de reine en lui disant « qui tu es ?» Non, il respecte les conventions. Il va voir la suivante qui a pris sa place et lui dit « qui est l'autre ?» Et l'autre, elle lui dit plein de choses. Elle commence par lui dire « je l'ai prise avec moi en chemin pour qu'elle me tienne compagnie ». C'est-à-dire, on voit bien que la situation est exactement la même qu'au début, sauf qu'il y a un changement d'identité. Donc vous voyez, je pense que c'est bien important d'entendre que ces deux filles représentent deux parties d'un même individu. Et puis, elle dit quelque chose qui est important aussi, « donner à cette bonne quelques travail pour qu'elle ne reste pas sans rien faire ». Et je trouve que ça, c'est important parce qu'elle est dans une position dynamique. Elle pourrait dire, par exemple, « elle vaut rien du tout, renvoyez-la dans son royaume ou mettez-la en prison ou c'est une méchante, elle voudrait l'éliminer. Elle pourrait vouloir l'éliminer. » Non, elle dit qu'il faut la mettre au travail. Et là, j'entends un travail psychique. C'est-à-dire ici, l'ombre vient, par l'intermédiaire du vieux roi, dire qu'il faut que le moi se mette au travail. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Donc cette figure d'ombre est une figure, à mon avis, positive, qui dit « il ne faut pas que le moi reste sans rien faire, il faut lui donner quelque chose à faire ». Et le vieux roi n'avait pas de travail à lui donner. Bah oui, on comprend qu'il n'ait pas de travail à lui donner parce que c'est pas à lui de trouver un job pour cette fille de reine. Il faut qu'elle existe. Et qu'est-ce qu'il va proposer ? Il va proposer qu'elle aille garder des oies et surtout qu'elle rencontre un petit garçon.
Eh bien, nous allons nous arrêter sur ce suspense insoutenable, docteur Dominique Desmichelles, et nous retrouverons notre reine déchue, notre princesse déchue, notre suivante qui tient les rênes, pour le coup, qui tient les rênes de la reine, et ce nouveau personnage qui va faire son apparition. Merci beaucoup, docteur Dominique Desmichelles, et à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Merci Simon, au revoir.